Jean est revenu. Alors, comment c'était? Jean est allé voir la totale. J'espère que vous avez tous pris l'occasion de regarder cette éclipse, même partiellement. Gloria fait la grimace parce que j'ai entendu dire qu'elle l'avait regardé à l'œil nu. C'est pas brûler la rétine. Pour tous ceux qui ont pu la voir de près ou de loin, partielle ou totale, vous avez remarqué que c'était quand même un beau spectacle. Et ce qui était formidable, c'était de voir tous ces gens les yeux tournés vers le ciel, n'est-ce pas? Nous savons d'où viendra notre aide, elle vient du Seigneur. We know where our help comes from. Un jour, toutes les nations se tourneront vers le ciel pour voir Jésus descendre. On a vu avec Becky et Mike, et puis Julien, on est monté à l'Air Saint-Michel. Et on a remarqué une chose dont on n'avait pas entendu parler tellement. C'est qu'il y avait, sous les arbres, il y avait des l'ombre du le soleil faisait des petits croissants d'or. Parce que normalement, à travers les feuilles, ça fait comme un principe de caméra, il y a des petits trous par lesquels le soleil brille et ça fait un petit cercle, souvent une éclipse, mais on est habitué, on ne pense pas que c'est un cercle du soleil. Mais c'était drôle de voir des croissants. C'est très beau. En fait, le spectacle le plus beau, c'était pas le jour d'éclipse, Annie, c'était la veille. Pour voir à quelle heure tombait le soleil, justement en prévision de mercredi prochain. J'étais monté à l'Air Saint-Michel. La veille de l'éclipse. Et si vous vous souvenez, c'était un jour très chaud. Je crois qu'à Cannes, il a fait 36 degrés. Et il était déjà assez tard. Je suis monté au sommet de l'Air Saint-Michel. Et là, j'étais vraiment stupéfié par la beauté du paysage. Le crépuscule tombait déjà. Et on voyait les lumières de la Côte d'Azur scintiller. Et le ciel partait du bleu foncé. Et puis ça s'éclaircissait en bleu ciel. Puis ça se terminait sur les collines en ciel turquoise, puis des reflets orangés. Vraiment de toute beauté. Et il y avait un vent très chaud. C'était un spectacle qui vous arrête. Puis d'un seul coup, j'ai remarqué que derrière moi, il y avait des éclairs. Flashes of lightning. Et en fait, il y avait, en se tournant, on voyait à l'horizon, il y avait qui arrivait plus proche vers nous. Il y avait un grand système nuageux. apparemment c'était sur l'Italie. Mais il y avait des éclairs dans ce système nuageux toutes les 5 secondes pratiquement. Et j'avais l'impression, j'étais seul, j'étais un peu déçu parce que j'aurais aimé partager ce spectacle. Mais je sais qu'il y en a plusieurs d'autres qui ont vu ces éclairs, qui ont vu. Il y en a? Qui a vu? J'ai dit, mais est-ce que ça arrive souvent? Moi-même. Et je crois qu'en fait c'est un spectacle assez rare, mais c'était. C'est la première fois que je vois autant d'éclairs. À tout moment, il y avait des. Et tout à l'heure, nous chantions le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Le clair matin ou les ombres du soir. Et en fait, j'aurais aimé avoir une caméra. Il y avait un côté un peu inquiétant parce que je ne savais pas si l'orage allait venir rapidement vers moi. Mais j'avais vraiment un sens de la magnificence de Dieu. Et vous voyez comment j'ai du mal à essayer de partager cette expérience. Et en fait, c'est ce qu'on va. Je crois que l'apôtre Jean, bien sûr, est inspiré par l'Esprit Saint. Ces paroles sont divinement inspirées. Mais on va voir en même temps qu'il a du mal à communiquer la magnificence de ce qu'il voit. Aujourd'hui, nous allons voir la description de la Nouvelle Jérusalem. L'Apocalypse, chapitre 21. J'aimerais, avant que nous entamions cette description, j'aimerais juste revenir sur deux versets. Qui va nous rappeler, nous avons vu donc qu'il y avait une nouvelle création, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et au verset 7, Jean nous dit, tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est Jésus-Christ qui parle. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Il est important de se rappeler que le fait qu'il y a une nouvelle création, ça ne veut pas dire que Dieu décide de passer l'éponge. Il y a toujours la distinction entre les vainqueurs. Et les vaincus, ceux qui sont vaincus par le péché. On peut se dire les vainqueurs, ça doit être des gens très spirituels. Mais si vous êtes chrétien né de nouveau, vous êtes aussi un vainqueur. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean encore dans 1 Jean 5. 1 John 5, verses 4 and 5. Où il est dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Et par opposition, verset 8, il est question des lâches. Peut-être ceux qui n'ont pas osé faire part de leur foi. Déclarer qu'ils sont chrétiens. Les incrédules, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Dieu. Ou plus exactement, ceux qui refusent de reconnaître l'existence de Dieu. Dans notre société, on pense que être athée ou agnostique, c'est être intellectuellement supérieur. La Bible dit que ce sont des imbéciles. Psaume 14. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. The fool says in his heart, there is no God. Et puis il y a les abominables. Abominable, le mot est très fort dans le texte original. Ça veut dire ceux qui puent. Stink. Ceux qui sont pollués. Ceux qui ne sont pas un parfum de bonne odeur à l'Éternel. Ceux qui se livrent à des choses abominables aux yeux de Dieu. Il est important de réaliser que le monde ne nie pas la même chose que Dieu. Il y a des choses qui sont tolérées, même légales, même encouragées par nos gouvernements, qui restent une abomination devant Dieu. L'homosexualité est une abomination devant Dieu. Les homosexuels, Dieu, Jésus est mort pour eux. Jésus aime les homosexuels. Dieu les aime. Nous devons les aimer aussi. Mais nous ne devons rien faire pour encourager l'homosexualité. Pas dire que c'est un style de vie alternatif. Ou dire que c'est hérité par nos gènes. Si Dieu a dit que c'était une abomination, c'est que tout le monde a le choix. Et avec l'aide de Dieu, j'ai connu des homosexuels qui ont vaincu ce problème. Les débauchés, les meurtriers. Débauchés, c'est tous ceux qui se livrent à des vices, qui galvaudent le don de la procréation, la sexualité que Dieu nous a donnée, qui est une chose merveilleuse, qui en fait une chose détestable. Et donc tout cela, leur part restera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Peut-être que vous avez l'impression qu'en tant que chrétien, vous avez une vie de vaincu. Mais mieux vaut gagner ultérieurement, que de penser qu'on gagne maintenant pour finalement perdre tout. Amen. Amen. Ne laissez pas le diable vous démoraliser, vous donner envie de ces gens qui vivent dans le péché, à qui tout semble réussir. leur promesse, c'est la seconde mort. Encore une fois, Dieu et nous, nous ne voulons pas que ces gens aillent à la seconde mort. Il a fait tout pour que tous viennent à la repentance. Amen. Amen. Nous allons maintenant lire ensemble la description de votre future résidence. Amen. Yann et sa femme, Jenny, viennent de déménager. Je suis sûr qu'avant d'arriver à Nice, Jenny voulait savoir comment c'était. Yann aussi. Il avançait par la foi, il ne savait pas. Et Dieu ne dit pas tout, mais il en trouve un peu le voile pour nous montrer qu'est-ce que ça va être. Lisons à partir du verset 9. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept dernières plaies vint et me parla en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau 12 000 stades. La longueur, la largeur, la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chacune des portes était une d'une seule perle. La place était de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je n'y vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point pendant le jour, car il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Continuerons la description sans doute la semaine prochaine, il y a encore quelques versets. On a rappelé la semaine dernière qu'il est important de distinguer la Jérusalem de la période de 1000 ans à la fin des temps. La ville de Jérusalem du millénaire et la nouvelle Jérusalem pour l'éternité. Souvent, quand on regarde des passages dans l'Ancien Testament, des prophéties, notamment Ésaïe, en fait, il parle des fois des deux à la fois. Un des tests, par exemple, c'est de savoir que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus d'eau, de mer, plus exactement. On a vu aussi qu'il y avait la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Et là, nous arrivons vraiment à la fin de la Bible. Et ça présuppose que l'on connaît tout le reste. Depuis la Genèse. Et l'Ancien Testament nous parlait du tabernacle dont Dieu avait donné les plans à Moïse. Et en fait, on sait que ces choses qui ont été révélées à Moïse, c'était des types, des préfigurations de réalité éternelle.
We're like types. Spiritual things, eternal things.
Et notamment, il y avait dans le tabernacle, il y avait d'abord le parvis. Et puis on entrait dans le saint lieu. Avant d'entrer dans le Saint des Saints où se trouvait la présence de Dieu. Et pour s'y retrouver un peu lorsqu'on lit le chapitre 21 et 22 de la Bible, de l'Apocalypse, il est bon de penser que le nouveau ciel, c'est comme le parvis. La nouvelle terre, c'est comme le saint lieu. Et la nouvelle Jérusalem, c'est le Saint des Saints. C'est une façon de mettre en relation les différents éléments dont il est question dans ces chapitres. Ce qui est intéressant, c'est que l'ange qui dit à Jean, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau, c'est le même. Qui lui avait dit aussi, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée assise sur les grandes eaux.
The great whore over the great 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 waters.
Peut-être que ça signifie qu'en fait, le serviteur de Dieu doit obéir dans sa tâche à ce que Dieu lui demande de faire. Des fois, on lui demande de montrer la grande prostituée, l'abomination. Et là, j'en suis sûr, il est beaucoup plus heureux de lui montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Peut-être que vous dites, moi j'aime bien parler de Dieu, mais j'aime bien parler des belles choses de Dieu. Il est bon aussi de confronter les mauvaises. C'est plus difficile parce qu'on risque d'avoir une réaction hostile des gens. Et si c'est le Seigneur qui vous appelle, il faut obéir. Amen. Amen. Cette épouse, est-ce que c'était seulement la ville? En fait, on sait qu'il s'agit des habitants qui vont être dans cette ville. On sait que l'Église est comparée à l'épouse de Jésus-Christ. Elle avait la gloire de Dieu. Verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. On pense qu'en fait, la meilleure équivalent pour cette pierre de jaspe transparente comme du cristal, c'est en fait le diamant. Le mot qui est traduit par éclat, c'est le mot ou lumière, c'est pas le mot habituel pour la lumière. La lumière de la lune, du soleil, des étoiles, c'est un autre mot. Parce que dans tous ces cas, la lumière est une lumière réfléchie. ici, il est question d'une lumière propre. That comes from itself. Nous sommes appelés à être des lumières. Jésus a dit qu'il était la lumière du monde. Mais il nous a dit aussi d'être la lumière, nous sommes la lumière et le sel de la terre. La lumière du monde et le sel de la terre. Et en fait, on ne peut être des lumières pas en brillant par nous-mêmes, mais en réfléchissant la lumière de Dieu. Amen. On doit être des petits réflecteurs, des petits miroirs. Mais pour bien refléter le soleil, par exemple, un miroir doit être quoi ? Propre. Nettoyé. Le sang de l'agneau nous nettoie de toute impureté, de tout péché, de toute iniquité. Dans tout le passage, on peut se demander, est-ce que cette description est littérale ou est-ce que c'est symbolique? Si on dit que c'est symbolique, faut expliquer, c'est symbolique de quoi? Et cette approche est très dangereuse, parce qu'après, chacun a son avis. Une bonne approche, c'est de dire que c'est littéral jusqu'à ce que Dieu nous montre autrement. Et donc, on voit cette cité qui a une grande et haute muraille. Des noms, 12 portes, à Nice, il n'y a pas tellement de portes. À Paris, il y a plein de portes. Tout autour de Paris, parce que c'était une ville fortifiée à une époque. Paris. Et sur chacune de ces portes, il y a le nom d'une des tribus d'Israël. On va voir dans le passage que le nombre 12 est présent partout. Jusqu'ici, on avait vu le nombre 7. Il y avait les 7 églises, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, les anges, 7 anges. Nancy est partie cette semaine bientôt. Non, ça n'a rien à voir. C'est le chiffre de la plénitude. Ce qui est terminé, fini. 12, on dit que c'est le chiffre de la perfection de l'administration de Dieu. Il avait choisi 12 tribus, 12 apôtres. Et là, on va voir le nombre 12 à 12 reprises. Le fait qu'il y ait les noms des fils d'Israël, des tribus d'Israël, nous montre que ce n'est pas seulement l'Église qui habite la Nouvelle Jérusalem. Mais aussi les Juifs qui ont reconnu le Messie. Tournons-nous ensemble dans Hébreux 11. Abraham, l'ami de Dieu, notre Père à tous. Au verset 10, il est dit que il attendait la cité qui a des solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et puis, on peut dire, c'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner un jour à une descendance, parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme et d'un homme déjà atteint par la mort sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie, et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Verset 13 dans ce passage est très important. Nous sommes de passage. Amen.
We're temporary. Sojourners.
On y reviendra. We'll get back to that. Dans le même passage, dans le même livre d'Hébreux, il y a un autre passage, verset 22 du chapitre 12. Il est dit encore, mais au contraire, vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges. 12:22. C'est important de savoir que Dieu est l'architecte et le constructeur, les deux à la fois. Il y en a peut-être parmi vous qui ont fait l'expérience de construire des maisons ou d'avoir travaillé dans la construction de bâtiments. Des fois, l'architecte peut faire des très bons plans, mais l'entrepreneur qui vient construire est pas très bon. Et le résultat, c'est que ça tient, c'est pas très bon. À l'inverse, on peut avoir pour connaître un bon entrepreneur, builder. Mais l'architecte, en fait, c'est un copain qui a fait les beaux-arts, qui est un peu artiste. Et quand on construit, le constructeur dit, mais comment ça se fait qu'il a mis la conduite d'eau ici, alors que maintenant la cuisine est là-bas? Par la grâce de Dieu, peut-être nous louerons un local à la rentrée où nous aurons à faire des travaux. Building. Church building. Peut-être en septembre. Il faudra qu'on trouve un bon architecte et de bons constructeurs. Oui, c'est bien, ça, c'est intéressant, Pierre. Mais en fait, ce qui est important, c'est de réaliser que Dieu va être l'architecte et le constructeur de chacune de nos vies. Il a un bon plan pour chacune de nos vies. Trop souvent, nous, on a une idée. On fait nos propres plans. Puis on demande à Dieu de bâtir. C'est bien. Et des fois, il va le faire. Pour nous montrer que les plans étaient ridicules. Et à l'inverse, des fois, ils peuvent nous donner des plans et la réalisation ne se fait pas. Doesn't work. Yeah. Proverbe 16:9 dit que le cœur de l'homme médite sa voie. 16:9. The heart of man thinks his way. Mais c'est l'Éternel qui affermit ses pas. Amen. Un passage bien connu aussi, le psaume 127. 127. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. If that's not the Lord building it. Ça doit être une constante dans nos projets, dans nos plans de vie. Prendre les plans du Seigneur et le laisser bâtir. Alors là, il peut faire de belles choses. Il faut qu'on s'écarte. Get away. Of his way. Get out of his way. Que Dieu soit l'architecte et le constructeur de chacune de nos vies. Amen. À l'Orient, il y a ces trois portes. Au Nord, trois portes. Au Midi, trois portes. Et à l'Occident, trois portes. Le prophète Ézéchiel parlait de ce genre de porte pour la Jérusalem du millénium. Et j'ai lu une illustration à propos de ça. Je ne suis pas sûr que l'illustration soit vraiment voulue par le texte. Mais elle est intéressante quand même. On dit que l'est est là où le soleil se lève. East is where the sun rises. De bonheur. Entrer par là, c'est entrer de bonheur dans le royaume de Dieu. À l'inverse, l'ouest, c'est le soir, le soleil se couche à l'ouest. Entrer par les portes de l'ouest, c'est entrer tard. Porte du nord, le nord c'est froid. Un peu. Entrer par les portes du nord, c'est entrer plutôt froidement intellectuellement dans le royaume de Dieu. Et puis le sud, ça c'est le midi, hein. C'est chaud. Entrer par le sud, c'est entrer par les émotions. Peu importe si c'est vrai ou pas, que vous rentriez tôt dans votre vie, tard, que ce soit d'abord intellectuel ou émotionnel, ce qui compte c'est de rentrer. Amen. Rentrer. Il y a des anges aux portes. On ne parle pas de Saint-Pierre. Dans toutes les blagues qu'on raconte sur le paradis, il y a toujours Saint-Pierre à la porte. Il n'est pas là, désolé. Les murailles de la ville sont 12 fondations, 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Verset 14. Les 12 apôtres représentent, bien qu'ils soient juifs, représentent bien sûr la nouvelle alliance, l'Église. Et Paul nous disait dans Éphésiens 2:20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Notre foi est bâtie sur la révélation qui nous vient des apôtres. Nous avons dans la Bible tout ce qu'il nous faut. Nous ne courons pas écouter un nouvel apôtre, un nouveau prophète. Parce que si c'est nouveau, c'est que ce n'est pas vrai. Amen. Verset 15 nous commence à nous parler des dimensions de la cité céleste. Il y avait cet ange donc qui mesurait avec un roseau d'or. Et c'était une ville qui avait en fait une forme cubique. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Et mesure 12 000 stades. Un stade, à l'époque, ça représentait 185 mètres à peu près. Donc ça fait près de 2200 km de côté. 2200 km. 1400-1500 miles. La diagonale représenterait 3800 kilomètres, pardon. 3800 kilomètres. Un peu plus que le diamètre de la Lune. En Europe, la base irait de Belfast à Gibraltar à Athènes à Varsovie. Athènes et Warsaw. Donc, rassurez-vous, il y a de la place. Le cube, ça représente 10 milliards de kilomètres cubes. 10 billions of cubic kilometers. On ne sait pas combien il y aura de personnes sur le livre de l'agneau. Si on était 10 milliards, et on sait que petit est le nombre de ceux qui vont jusque qui passent par la petite porte. On aurait un petit appartement de 1 km cube. Nous aurons un corps nouveau. Peut-être que nous pourrons fonctionner dans les trois dimensions. Probablement. Et si jamais il y a plus que 10 milliards, imaginons qu'on soit le double. Alors on peut faire des mezzanines. On aura des plafonds que de 500 mètres de haut. La muraille, elle aura environ 70 mètres de hauteur ou de largeur. Ça représente à peu près 200 feet. Et ce qui frappe, c'est la description de la beauté au verset 18 et 19. Le texte fait appel à des pierres précieuses. On sait que dans l'Exode, dans le livre de l'Exode, le grand prêtre avait reçu les instructions pour porter 12 pierres précieuses sur son torse. Un vêtement qu'on appelait le pectoral, qui représentait chacune des 12 tribus. Et le grand prêtre, bien sûr, c'est une image de Jésus-Christ qui portait chacune des tribus et qui porte chacun de nous sur son cœur. Et là, cette description de pierres précieuses, donc les fondements tout autour de ce grand cube, C'est difficile des fois de savoir exactement les pierres précieuses qui sont mentionnées, à quoi elles correspondent aux pierres actuelles. À quelle pierre actuelle elles correspondent ? Et suivant les interprétations, des fois une pierre peut être verte ou jaune ou bleue. Je fais des petits essais comme ça. Mais en fait, ce sera des couleurs très translucides, bien sûr, des pierres précieuses. Et je me rappelle, à l'ère Saint-Michel, ça avait l'air d'être des pierres précieuses de couleur orangée, de couleur bleue. Ça va être merveilleux. Amen. Les portes sont des perles. La muraille faisant 70 mètres, ça doit être des perles qui font mesure près de 70 mètres. Imaginez la taille de l'huître. En fait, ce qui est important de se rappeler, c'est que la perle est le fruit d'une irritation. Result from of a problem. La perle vient, quelqu'un dit que c'était une beauté qui venait de la souffrance. Si on a un petit caillou dans une chaussure, on a mal au pied. Les huîtres, si elles ont une poussière à l'intérieur, elles ne peuvent pas enlever le caillou. Donc elles commencent à l'enrober de perles. Et en fait, c'est ce que Jésus fait avec notre péché. Il vient nous recouvrir de sa robe de justice. Amen. Quelle joie de ce qu'il puisse cacher notre péché et nous présenter au Père complètement pur. Tournons-nous rapidement à Matthieu 13. Versets 45 et 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Dieu nous a trouvés comme une belle perle. Il a vendu tout ce qu'il avait pour nous acheter. Amen. Les portes, normalement, et les murailles, ça parle de protection ou d'exclusion. Mais ici, il n'y a plus de danger. Il est dit que les portes sont ouvertes tout le temps. Aujourd'hui, Dieu veut que tout le monde vienne à lui. Que notre assemblée soit aussi un endroit où tout le monde puisse venir pour trouver Dieu. Verset 22 nous dit qu'il n'y a pas de temple. Pourquoi ? Parce que Dieu, le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau habitent dans la Nouvelle Jérusalem. La vie n'a plus besoin du soleil ni de la lune pour briller, car c'est la gloire de Dieu, ce que les Hébreux appelaient la Shekinah, qui éclaire, et l'agneau est son flambeau. Verset 23. Les nations marcheront à sa lumière, les rois de la terre y apporteront leur gloire. il était dit avant qu'il y aura des rues en couvertes d'or, de l'or transparent. On pourra tous admirer la lumière de Dieu. On n'aura plus de persiennes. Plus rien à cacher que la transparence de la lumière de Dieu. Jean, le même Jean, nous avait dit dans son évangile que Jean-Baptiste était venu pour rendre témoignage à la lumière. Et que Jésus, c'est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et le jugement, c'est que lorsque la lumière est venue dans le monde, les hommes l'ont rejetée parce qu'ils ont préféré leurs ténèbres. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jésus nous dit de venir à lui, d'être purifié à sa lumière. Je suis la lumière du monde, a dit Jésus. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12, John 8, 12. Et Dieu est lumière. Il est dit qu'il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir jusqu'à ce que nous soyons en présence de lui dans la Nouvelle Jérusalem. J'aime bien ce verset dans le psaume 36 qui dit « Par ta lumière, nous voyons la lumière. » C'est seulement lorsqu'on a la perspective de Dieu sur les choses qui nous entourent que l'on comprend les choses. C'est un peu comme lorsque dans les rues maintenant, par économie, il y a des lumières jaunes. Des lumières au sodium. Il y a des couleurs qui sont pareilles que d'autres. Parce que ce n'est pas une lumière complète qui les éclaire. Mais si nous demandons à Dieu d'éclairer les choses, nos circonstances, par sa lumière, par sa parole, par son Esprit Saint, alors là, nous voyons les choses dans la réalité de ce qu'elles sont. Nous voyons les priorités réelles. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Finalement, il est dit que seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de la vie de vie de l'agneau seront là. Les portes ne seront pas fermées. Jésus avait dit, moi je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera de beaux pâturages, des pâturages. Vous entrez par Jésus, un jour vous déboucherez sur la Nouvelle Jérusalem. La première fois que j'avais lu la description de la Nouvelle Jérusalem, je m'étais dit en fait, donnez-moi un beau lac de montagne avec des truites qui sautent.
Mmh.
Les pierres précieuses, ça ne m'intéresse pas tellement. Mais je crois que on sera tous abasourdis. Stupéfiés. Stupéfaits par la beauté. Par la présence de Dieu. D'être enfin dans un monde sans rien de négatif. Un monde de pureté. Plus de peur, plus de danger. Plus de péché. Plus de mort. Le prophète Ésaïe ajoutait même que nous ne nous rappellerons même plus des choses tristes. Est-ce que vous avez envie d'aller dans un endroit pareil? Prions. Seigneur, par ta lumière, nous voyons la lumière. Seigneur, merci de donner ton Esprit Saint pour comprendre un peu ces paroles, pour avoir un petit aperçu, un petit avant-goût de la beauté de ce que tu as préparé. Tu as créé le ciel et la terre en 7 jours. Mais Jésus, tu nous dis que tu prépares cet endroit depuis plus de 2000 ans maintenant. Seigneur, notre prière, c'est que cet espoir ne soit pas juste une chose sympathique, un peu spirituelle, un peu vague, mais fais de ces promesses, Seigneur, une réalité dans toute notre vie, Seigneur. Que ces perspectives remplissent notre cœur de joie et d'abondance. Donne-nous toujours plus de haine de notre péché, Seigneur. De l'amour pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Pendant que nous prions, s'il y en a qui n'ont jamais encore ouvert leur cœur au Seigneur Jésus, j'aimerais qu'il leur donne cette occasion, aujourd'hui même. Si vous réalisez que vous êtes dans le péché, et que Dieu attend que vous rentriez dans sa maison, patiemment, avec amour, sachez qu'un jour, il devra fermer la porte. Mais aujourd'hui est le moment du salut. Priez en silence avec moi. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, que je t'ai ignoré dans ma vie. Seigneur, mais je comprends un peu ton amour. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Et que tu prépares un merveilleux futur pour moi. Aide-moi, Seigneur, par ta présence dans ma vie, par ton Esprit Saint, à vivre la vie que tu veux pour moi. Sois l'architecte et le constructeur de ma vie, Seigneur. Je te remets ma vie, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Pendant que nous sommes toujours dans la prière, s'il y en a qui ont prié cette prière, je leur demanderai de lever la main. Sachant que ce serait la décision la plus importante de toute votre vie. Peut-être que vous hésitez, vous dites, oh, c'est bien beau, mais... Sachez que c'est le diable qui vous parle. Jésus vous dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Car mon joug est aisé, mon fardeau léger. Amen. Amen. Que le Seigneur vous donne une bonne semaine. qu'il vous remplisse l'imagination de ces choses merveilleuses. Prenez le temps de méditer sur ces choses. Prenez des crayons et essayez de dessiner. Ça vous fera penser à ces choses. Et ce sera merveilleux. Amen. Amen. Bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse.